Actu SF, les podcasts.
Alors, messieurs, dames, merci d'être venus pour cette table ronde. Je me présente, Vianney Muller, je suis responsable du comité d'histoire régionale qui a le plaisir de vous proposer toute une série d'animations hein, du pôle histoire et imaginaire que vous avez pu voir cette année aux Imaginales. Et on vous propose donc également cette table ronde, les troubles de reconstitution historique, un plus pour l'imaginaire, une question qui peut être un peu jugée comme provocante, formulée ainsi, et qui va nous amener à explorer finalement la question des relations entre histoire et imaginaire et comment la reconstitution historique se positionne là-dedans, dans cet ensemble. Et puis la question de l'imaginaire, pour qui ? Parce que selon que l'on soit reconstituteur, selon qu'on soit membre du public qui consomme cette reconstitution, qu'on soit auteur de fiction, on est dans un festival littéraire avant tout, eh bien l'intérêt de la reconstitution ou la relation qu'on entretient avec elle peut varier. Alors on a la chance d'avoir un très beau panel de participants pour cette table ronde. Je commence à ma gauche avec Isabelle Mangeot, qui est donc archéologue, qui a eu l'occasion de travailler sur des périodes très éloigné de la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, donc il y a une vision, je dirais, très large, et qui par ailleurs est membre de plusieurs troupes de reconstitution sur des périodes différentes également, et qui travaille en ce moment à l'Université de Lorraine. Sophie Laribi-Glaudel, qui a elle aussi une casquette universitaire, agrégée d'histoire, en cours de thèse sur les mythologies après un master en assyriologie, et qui a eu l'occasion de pratiquer également la reconstitution historique par le passé, même si c'est un petit peu entre parenthèses pour le moment, mais elle pourra nous livrer cette expérience. Franck Mathieu, là vous n'avez pas de doute, hein, vous le voyez, reconstituteur évident, président de l'association Les Lucky, que vous pouvez voir hein, sur le festival, qui propose de la reconstitution donc celte hein, sur la période 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, un autodidacte de formation qui aujourd'hui est tout à fait reconnu pour les réalisations, qui travaille beaucoup notamment avec les musées, les sites de médiation, pour pouvoir fournir, je dirais, avoir des éléments concrets de la culture matérielle hein, de cette époque celtique. Jean-Laurent Del Socorro, je crois que là vous l'identifiez bien pour beaucoup, le coup de cœur hein, du festival de cette année 2018, qui a livré plusieurs ouvrages où l'histoire est toujours présente. Le Royaume de Vent et de Colère, qui nous présentait un épisode des guerres de religion, ou en tout cas dans cette contexte de tension religieuse, et puis Boudica, l'ouvrage que vous pouvez voir ici, qui reprend et retrace l'histoire de cette monarque, de cette princesse celte en Angleterre, dans la folk et le folk. Et donc je pense que vous aurez sur cette période celte sans doute des éléments intéressants en commun. Et puis donc Stéphane Plateau, historien de formation, auteur de fantasy, qui a livré donc notamment le cycle des sentiers des astres, si je ne me trompe pas, chez les moutons électriques, c'est ça, et qui a proposé notamment dans ces quatre volumes toute une mythologie très riche et qui puise, je dirais, là, très, très ardemment dans l'histoire. Donc un rapport fort à l'histoire. Je vais commencer par Jean-Laurent et par Stéphane avec une question très simple. Vous, auteur de littérature, auteur de fiction, est-ce que vous avez une expérience de la reconstitution historique, que ce soit voilà, comme auteur pour vous documenter ou à titre personnel comme pratiquant?
Alors au niveau de la reconstitution historique, non, je n'ai pas eu l'occasion d'en faire moi-même. J'ai eu l'occasion d'en côtoyer après des gens très proches de moi qui en font, paradoxalement pas sur les périodes sur lesquelles j'ai écrit mes ouvrages. Donc c'est peut-être pour ça que je ne les ai pas sollicités à ce niveau-là. Par contre, pour mon prochain ouvrage qui est sur la guerre de sécession, effectivement j'approche des gens qui eux font de la reconstitution, notamment sur des aspects militaires, et là effectivement c'est un point documentaire sur lequel je m'intéresse tout à fait.
Je risque d'être plus long.
Moi, j'ai commencé à faire de la reconstitution historique vers l'âge de 15 ans, en me faisant embarquer dans une des premières troupes belges de reconstitution médiévale, guerre de 100 ans. Donc, je me suis joyeusement bastonné avec les copains pendant des années. Là, j'ai plus trop le temps d'en faire depuis que je suis édité. Mais oui, donc j'ai beaucoup d'expérience de ça. Alors, quand on a commencé, c'était un peu de la débrouille, du bricolage. On allait dans les brocantes, hein, comme on disait, chercher les casques de l'armée américaine pour les poncer, puis rajouter des couvre-nuques pour faire une salade du 15e siècle, etc. Les armures ressemblaient à des boîtes de conserve. On a même un copain qui était recruté par la troupe parce qu'il était passé dans le journal local, parce qu'il avait fait une armure en boîte de conserve. Et donc, évidemment, on lui a montré une armure déjà un peu plus solide. Et puis, on a vu les choses évoluer, notamment sous l'impulsion des Anglais qui avaient une longue expérience du matériel, apparaître des armuriers très spécialisés qui faisaient des armures vraiment très, très réalistes, très pointues, très bien articulées. Et puis, c'est devenu évidemment un loisir un peu plus coûteux au niveau du matériel, surtout quand on fait du 15e. Et donc voilà, donc en dehors de ça, il y a eu évidemment une très forte amélioration sur le matériel, sur le côté historique du matériel, sur le côté documenté. Il y a évidemment aussi une pratique du combat. Alors souvent, cette pratique du combat dépend un peu de l'orientation de la troupe, parce qu'il y a différents types de troupes médiévales. Il y a celles qui sont là, qui ont une orientation plus spectacle, des troupes qui ont une orientation plus vraiment reconstitution, où il faut vraiment être solide historiquement. Donc les troupes qui sont plus spectacles vont livrer des combats, par exemple, qui sont spectaculaires, mais pas forcément réalistes. Hein. On tape beaucoup sur l'épée pour faire bling, alors que dans un vrai combat, il faudrait plutôt éviter pour ne pas les mousser. Si bien qu'en tant qu'auteur, le profit que j'en tire est d'abord, par exemple, de fréquenter des artisans, où on voit vraiment des gens qui pratiquent un art manuel, un savoir-faire qui était à l'époque très, très poussé, où on n'a plus maintenant quelqu'un qui sent le fer, qui sent le bois, qui sent les différents matériaux comme devaient le sentir les personnes qui, à l'époque, consacraient 8 heures par jour à faire leurs œuvres. Au niveau des combats, mais je ne vais peut-être pas en parler tout de suite parce que sinon je vais être trop long, là, il y a toute une démarche, mais finalement, c'est pas tellement... le fait de porter une armure est très, très instructif. De voir qu'on peut se lever, courir, monter une échelle, etc. Par contre, au niveau des techniques de combat, de la résistance des armes, etc., là, j'ai plus été regarder ce que faisaient des gens un peu plus pointus, notamment pour savoir quelle arme peut passer, quelle armure, etc. Il y a une course technologique. On a une vision romantique du Moyen-Âge où c'est encore la valeur de l'homme qui compte. C'est davantage vrai peut-être que dans la guerre actuelle, mais il y avait néanmoins une course aux armements qui était importante, et c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu rendre dans les scènes de combat de mes bouquins. Comme ça, tu sais sur quoi rebondir plus loin, je vais rendre le micro.
Merci pour cette expérience. Je vais rester pour le moment dans le domaine de l'expérience, alors avec Isabelle Mongeau, puis ensuite Franck et Sophie. Qu'est-ce qui vous a amené à l'origine, pas forcément dans votre pratique actuelle de la reconstitution, mais quel a été finalement le moteur, ce qui vous a amené à pratiquer, à rentrer dans une troupe de reconstitution? Est-ce que l'imaginaire, la recherche d'un imaginaire, y était pour quelque chose, ou est-ce que c'était une démarche déjà plus réfléchie éventuellement, ou un peu différente?
Merci. Alors, pour moi, finalement, ça a commencé avec mes études d'histoire à l'université. Donc, plutôt que d'avoir un discours assez opaque dans les livres de choses qui étaient très figées, avec très peu d'histoire du comportement, d'histoire du petit peuple, ça m'a amené à vouloir m'intéresser à ce qui se passait à l'époque et surtout à la vie quotidienne. Et donc, en s'intéressant à la vie quotidienne, j'ai fait partie de la première association dans laquelle je suis rentrée, qui était plutôt orientée vers le milieu du Moyen-Âge. Et on a fait ça au début, c'est sûr, de manière assez dilettante, avec des informations historiques qui étaient déjà solides, puisque plusieurs d'entre nous faisaient partie de l'université et suivait des études d'histoire, mais bon, moi je trouvais que c'était pas suffisant. Et après, donc, j'ai entamé ce cursus en archéologie qui m'a fait me poser encore plus la question par rapport au matériel que nous on trouvait en fouille. Et là, j'ai désiré passer un petit peu à la seconde, si je puis dire, et m'intéresser à des choses beaucoup plus concrètes, à des périodes moins connues, afin de pouvoir apporter quelque chose à l'université de manière générale et puis à la connaissance aussi en particulier de choses très très pointues.
Merci. Sophie ?
Alors ma démarche dans l'accès à la reconstitution historique est assez proche de celle d'Isabelle. Moi j'ai commencé dans un environnement un peu différent puisque j'étais en classe préparatoire où on fait de l'histoire très événementielle. Et moi, je me rendais compte, mais depuis assez petite, que j'avais du mal avec la chronologie. Pas pour retenir les dates, mais pour me rendre compte de l'effet du temps. C'est quelque chose qui m'a frustrée très vite sur l'histoire. C'est de me dire, voilà, on apprend des dates, mais il se passe des choses entre-temps. Et ça, je l'ai toujours eu dans un petit coin de la tête. Et lorsque j'ai eu l'occasion d'intégrer une troupe de reconstitution médiévale, hein, je suis antiquisante, mais... Je me suis aussi beaucoup intéressée au Moyen-Âge. Lorsque j'ai eu cette occasion, eh bien, je me suis dit, voilà, c'est le moment où on va pouvoir vraiment montrer que l'histoire, c'est une science humaine, c'est une science de l'humain. On le fait avec nos textes, on le fait avec nos objets, mais il y a cette dimension. Alors, pas tant pour nous, pour nos recherches, même si c'est parfois fort utile. Hein, là, on n'est plus dans la reconstitution. Quand on parle de recherche universitaire, on est dans ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale. Donc, ce n'était pas au départ tant pour cette démarche qui maintenant me tient à cœur que... pour l'aspect médiation et pédagogie, c'est-à-dire donner à voir l'histoire aux gens. Je l'entends encore trop souvent, « Ah, mais l'histoire, c'est facile et slash c'est ennuyeux, il y a juste des dates à apprendre. » C'est complètement faux, c'est ce que j'essaye de montrer à mes élèves, à mes étudiants. L'histoire, c'est du vécu, c'est de l'humain, c'est nous. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est de l'histoire. Peut-être que dans 300 ans, quelqu'un va retrouver le programme des Imaginales, ne saura absolument pas quelle société a pu exactement porter ce programme et puis va essayer de reconstituer ce qu'il y a derrière. Exactement. Et peut-être, imaginez que là, nous soyons pétrifiés par une éruption volcanique à l'instant T. Imaginez ce que les archéologues du futur vont penser.
Grande question à méditer sur effectivement le regard que l'on peut avoir et que l'on peut porter. Alors ça m'amène une double question pour Franck. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la reconstitution comme vos confrères? Et puis, comment on travaille avec justement ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire cette part de creux, de blanc, de vide, de manque qui pourrait effectivement être un formidable espace pour déployer un imaginaire débordant et qui n'est peut-être pas tout à fait votre objectif. Vous...
C'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai commencé, il y avait quand même une démarche personnelle. Ça relève un peu, je pense, du comportement du collectionneur. C'est-à-dire quand on veut s'approprier l'objet pour justement un peu en comprendre tous ses aspects. Et donc on commence à s'intéresser à cette période, notamment les Celtes, qui effectivement est très fragmentaire au niveau documentation. Et le fait de se plonger dans ce monde qui est maintenant perdu depuis... 2000 ans à peu près, fait qu'on se dit, tiens, j'acquiert des connaissances au fur et à mesure et ce serait quand même intéressant de pouvoir le partager avec le public. Et c'est là que finalement, cette démarche qui au départ, elle est personnelle parce qu'on trouve entre autres les objets beaux, tout simplement, et qu'en plus, on les refait. Et on se dit, ben, on partagerait bien ça avec finalement le public, ceux qui ne connaissent pas du tout ces périodes-là. Et donc là, du coup, de cette démarche personnelle, on en vient à de la médiation. Et ça me permet de rebondir aussi sur un sujet qui est essentiel dans la reconstitution historique, c'est la responsabilité de ce qu'on montre. C'est-à-dire qu'en gros, chaque reconstituteur a une responsabilité personnelle dans son discours et dans la réalité matérielle de l'époque qu'il souhaite montrer au public. En clair, dans les années 90, quand on faisait effectivement du bricolage médiéval, eh bien, on montrait quantité d'erreurs, de choses fausses, que la personne qui ne connaît pas ce monde-là, elle considère que celui qui présente ce matériel est le spécialiste. Et qu'en gros, il n'est pas censé commettre des erreurs. Mais cette personne-là n'aura pas le moyen de vérifier si ce qu'elle voit et entend sera quelque chose de vrai ou pas. Voilà. Et donc, exactement. Et donc, je crois qu'en fait, on ne mesure jamais assez bien la responsabilité justement qui nous incombe à nous, reconstituteurs, par rapport au public.
Alors, cette responsabilité, moi, j'ai envie de tendre la perche aux auteurs, parce que vous pouvez la voir parfois aussi, ou en tout cas, à défaut de responsabilité, c'est une question, je suppose, lorsqu'on écrit Boudica, qui peut se poser. Mes lecteurs viennent lire une fiction, je fais le choix de la placer dans un environnement historique qui a une réalité qui est partiellement documentée. Comment vous gérez cette question de la relation entre d'un côté l'histoire, de l'autre côté l'imaginaire? Et finalement, est-ce que l'auteur souhaite s'affranchir à un moment de la réalité matérielle, historique, parce que pour le récit, pour les besoins de la narration, eh bien, on a besoin de s'en affranchir. Et comment on travaille le lecteur? Quel état d'esprit vous anime lorsque vous êtes dans cette rédaction?
C'est une excellente question. En sachant qu'il y a eu des tables rondes sur comment aborder l'histoire, et on voit que les approches sont très différentes d'un auteur à l'autre. Pour ma part, c'est un petit peu ce que tu as dit. Il y a quand même, si on décide de revendiquer un roman historique, il y a un peu une responsabilité dans le sens où, effectivement, ça reste romanesque. Effectivement, on peut prendre des libertés. Mais si on revendique un cadre historique, ça doit être réel. Pour Boudica, et préciser. Donc c'est vrai que par exemple dans Boudica, à la demande des lecteurs du précédent ouvrage, j'ai fait une courte série de repères, de sources, vidéos, textes, et ainsi de suite, pour que les gens aillent plus loin s'ils veulent voir plus en détail ce que j'ai utilisé moi pour créer ce cadre. Dans Boudica, c'est la démarche, comme pour Royaume de vent et de colère, c'était de dire j'ai un pacte de confiance avec le lecteur, j'amène des éléments historiques, je n'ai pas à tricher avec les dates, je n'ai pas à tricher avec les personnages, je n'ai pas à véhiculer une fausse image, c'est-à-dire je ne veux pas arriver justement avec les boîtes de conserve dans mon récit. Et c'est pour ça que j'ai souvent des relecteurs spécialisés. Là, un archéologue d'époque qui s'appelle Gwendal Gegen, qui a validé donc certains éléments de décor. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu de sources écrites. Déjà, elles sont romaines, donc elles sont déjà biaisées par rapport à ça. Et sur l'histoire de Boudica, cette reine, on ne connaît que la fin. Donc il y a une hypothèse, il faut prendre une hypothèse. Là, j'ai pris une des hypothèses par un spécialiste d'époque qui travaille sur la zone des Icènes en Angleterre où se passe le récit, qui met plusieurs hypothèses, j'en prends une. Je fais une hypothèse romanesque sur sa jeunesse que j'ai soumis donc un archéologue qui valide ou invalide la démarche. Je ne demande pas, effectivement. Évidemment, il demande, c'est pas une caution, mais quand je parle du contexte historique, est-ce que c'est crédible? Et la chose très intéressante, c'est que vous avez une deuxième version du texte, puisque l'archéologue en question, il m'a dit, en fait, il y a des choses qui marchent, il y a des choses où, effectivement, c'est des boîtes de conserve et des clichés que moi, malgré mes recherches, je continue à véhiculer. Il a dit, ça, c'est complètement à reprendre. Quitte à faire tomber des pans assez importants du... Voilà. Donc ça, c'est le point important, c'est-à-dire qu'il reste sans doute des erreurs, parce que je ne suis pas historien. Globalement, j'ai fait la démarche suffisante, j'ai une démarche en tout cas presque scientifique, pour essayer d'avoir une réalité historique. Et le deuxième point, par contre, il y a des effets de trous, romanesques, où là, de toute façon, ils font inventer, et là, j'ai ma liberté à moi. Donc effectivement, l'hypothèse que je prends, c'est celle qui m'arrange aussi le plus au niveau du récit, de l'intérêt que le lecteur peut avoir, éventuellement des rebondissements de ce que je vais mettre en avant.
Ah, allez-y, hein, si vous voulez rebondir, n'hésitez pas.
Alors moi, j'ai une démarche différente dans le sens où je ne situe pas mon roman dans un monde réel, je ne fais pas référence à l'histoire, mais dans un monde imaginaire. Cependant, ce monde imaginaire, il est à un certain degré d'évolution qui correspond technologique de civilisation, mais surtout technologique, en fait, qui correspond à on va dire au début du 15e siècle avec les armures complètes et le début de l'artillerie à poudre, qui est une époque que j'ai fréquentée justement dans la reconstitution historique et qui me paraissait intéressante. Ça, c'est niveau technologique. Après, le monde, il est un mélange d'influences culturelles un peu hybrides. Il y a un peu de celtique, un peu d'hindou. C'est un peu comme si les Celtes avaient conquis l'Inde antique et puis que ça s'était développé pendant 1000 ans, ou le contraire d'ailleurs, et que ça s'était développé pendant 1000 ans jusqu'à ce niveau technologique. C'est un mélange qui marche assez bien parce que c'est des peuples indo-européens et il y a des éléments communs, comme le sacrifice du cheval ou des choses comme ça qu'on retrouve dans les deux. Alors par contre, j'essaie de faire une fantaisie qui est très réaliste, ce qui veut dire qu'il y a un vrai travail de recherche historique derrière, malgré tout. Tout ce qui n'est pas magique doit être pour moi crédible et donc faire référence à des choses qui ont existé dans l'histoire. Et d'ailleurs, ce travail de recherche est tout à fait précieux parce qu'il permet de découvrir des choses intéressantes et donc de dire des choses originales en fait, qui sont en dehors des images d'Épinal, excusez-moi, qu'on a sur le Moyen-Âge, qui permettent de raconter d'autres choses. Par exemple, là, je travaille sur une ville, je lis des bouquins sur la pollution dans les villes, sur le fait que si on peignait autant de Sainte Vierge sur les portes ou qu'on mettait des potales, c'est pour pas que les gens pissent sur les portes quand ils sont sous. Voilà. Alors, après, parfois, je peux aussi avoir un doute sur l'information, mais la trouver intéressante et crédible pour l'histoire. Donc, je vais pas non plus être archi-discipliné du moment que ça tient la route. Mais c'est quand même une démarche intéressante. Là où j'ai fait beaucoup de recherches, notamment, c'est pour ce qui est combat. Quand j'ai commencé à décrire des scènes de combat, évidemment, il y avait le reconstituteur, l'ancien reconstituteur qui parle. Donc, je voulais vraiment qu'on sente les armes, les armures et que ça soit réaliste. Et donc, là, j'ai recreusé beaucoup parmi le travail des reconstituteurs. Et la première chose, pour voir un petit peu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, quelles expériences avaient été faites, notamment sur la résistance des armures. Et là, le premier constat, c'est qu'il y a à boire et à manger. Je pense que vous serez tous d'accord. Il y a des vidéos qui circulent. On prend une côte de maille achetée en Inde, qui est un truc fait à la va-vite. On tire dedans avec une flèche. La côte de maille vole en éclats parce qu'elle n'était absolument pas faite comme à l'époque. La côte de maille ne résiste pas aux flèches, c'est prouvé. Et puis, on voit des expériences sérieuses menées par la BBC, où on voit des longbows tirés à distance dans des côtes de maille, et puis on voit ce qui ou avec des arbalètes, et on voit ce qui passe et ce qui passe pas, et on se rend compte qu'en fait les armures sont très résistantes. Il y a un gars qui s'appelle Thibaut Jacquet en Suisse, qui est un historien de métier et qui a fait toute une série d'expériences. Ils ont fait une vidéo assez sympa de course en armure où ils ont pris un gars avec un équipement de GI, un pompier et lui. Et ils font tout un parcours vita, ils doivent courir sur des poutres, etc. Et le chevalier arrive deuxième derrière le pompier, je pense, et le GI est troisième, parce que l'équipement est plus lourd ou moins bien réparti. Donc c'est le gars a d'ailleurs pris l'avion pour aller dans un colloque à New York, mettre son armure dans la soute, ça lui coûtait trop cher, donc il a décidé qu'aucun règlement de la compagnie d'aviation ne l'empêchait de porter l'armure. Bon, il a fait des économies, il est monté dans l'avion en armure, il s'est filmé, puis il a écrit des bouquins intéressants sur les armes. Et ce que je voulais surtout, c'est qu'on sente le combat réel. Donc un combat en armure à l'époque, quand on voit vraiment ce que ça donne, aucune armure ne va être percée si elle est bien faite, surtout si c'est vraiment de l'acier trempé. Il faut vraiment chercher le défaut de l'armure, c'est très dur. Donc finalement, on prend l'épée court, ou à la limite, on y va à la dague, ça tourne plus vite à la lutte, ou alors on essaye d'assommer l'adversaire en tapant un maximum à la tête jusqu'au moment où il entend vraiment sonner les cloches. Ce n'est pas du tout l'image qu'on en a dans la plupart des bouquins de fantasy. Souvent, les bouquins de fantasy véhiculent une image très fausse, très romantique, très héroïque du combat médiéval, alors qu'en fait, dans un des passages du bouquin, il y a un archer de fortune qui tire sur un gars dans le noir, il ne se rend pas compte qu'il a une côte de maille, la flèche rebondit, à côté, il y a un archer de métier qui utilise des perce-mailles plus effilés, là ça passe, il lui sauve la vie, et après le combat, il vient lui dire « T'as pas quelques perce-mailles, s'il te plaît ?» parce que le matériel est vraiment important. Il y a une course aux armements à l'époque, et ça joue dans le récit.
Donc pour vous... Un intérêt, en fait, vous pourriez dire effectivement la reconstitution historique, en tout cas cette approche, vous fournit un plus pour l'imaginaire. Elle vous permet d'aller travailler, de donner des éléments qui viennent nourrir le récit du fait de votre expérience, de cette connaissance où finalement un auteur qui aurait une vision très basique du Moyen-Âge n'aurait peut-être pas justement cet épisode où on va pouvoir jouer sur le matériel pour apporter des rebonds narratifs ou des choses comme ça.
C'est une recherche de réalisme, d'abord au niveau des conditions technologiques, mais aussi de la mentalité, des conditions de vie. On ne raisonne pas de la même manière dans un monde où on a eu 6 ou 7 petits frères et petites sœurs dont la moitié sont morts en bas âge. On n'a pas le même rapport à la vie, à la mort, aux relations familiales par exemple. On n'a pas le même rapport à l'intimité. Les toilettes se sont collectives dans l'Antiquité, au Moyen-Âge. On fait ses besoins dans les champs. Tout ça, il n'y a pas le même rapport à la pudeur. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et moi, je suis un grand fan d'Umberto Eco. Qui est le maître du roman historique, capable comme personne d'autre de rentrer dans la mentalité, surtout des intellectuels, mais d'une époque. Et j'avais envie d'avoir une démarche assez similaire. Et donc, quand je construis mon monde et quand je construis mes personnages, je veux qu'ils soient crédibles par rapport au niveau technologique et au niveau de civilisation dans lequel ils évoluent, et que ça se sente.
Merci. Sophie, je vois que vous avez Boudica dans les mains. Je pense que vous avez quelques éléments que vous vouliez... partager avec le public. Je vous laisse la parole et puis n'hésitez pas à rebondir, bien sûr, hein, sur les propos des uns ou des autres.
Alors, en fait, ce qu'on a en commun, que l'on soit auteur de fantasy, historien, archéologue, reconstituteur, dans cette pratique de reconstitution, qu'elle soit écrite ou pratique, pour le coup, ce qu'on a en commun, c'est notre démarche. Et j'ai lu Boudica l'année dernière, puisqu'on a une table ronde ensemble sur un autre thème, sur les femmes fortes, et Boudicca en est une. Et j'ai entamé le livre de Jean Laurent, et j'ai su que j'allais passer un très bon moment quand, à la première page de texte, vous le verrez, hein, vous irez vous le procurer, le premier texte, ce n'est pas Jean Laurent, c'est Tacite. C'est-à-dire que Jean Laurent est parti d'un texte, d'une source, et je vous rappelle que l'histoire, eh bien, c'est avant tout les textes, et c'est aussi les objets, mais traditionnellement, ce sont les textes. Et c'est cette démarche qui m'a vraiment beaucoup plu dans ton travail de reconstitution, puisque tu es vraiment parti des textes, tu es aussi parti des objets, et tu as fait un travail historique de reconstitution qui t'a ensuite permis de combler des vides, et qui permet au lecteur qui connaît Boudicca ou qui ne la connaît pas de combler aussi ses vides en sachant exactement ce qui est historique, c'est-à-dire ce qui est validé par les sources anciennes et par l'archéologie, et ce qui est imaginaire, réaliste ou fantastique. Ça, je vous laisserai en juger lorsque vous le lirez. Donc, tu permets vraiment cette démarche, et c'est pour ça que j'étais très contente que ton livre soit au prix imaginal des lycéens, puisque beaucoup ont pu prendre conscience de la démarche qu'il y avait derrière l'écriture d'un roman historique. C'est très important pour nous enseignants, puisque c'est souvent le seul lien que nos anciens élèves ou étudiants vont conserver. Étudiants non moins, ils vont en conserver, mais nos anciens élèves vont conserver avec l'histoire. Ça va être le roman historique, ça va être le documentaire, ça va être se rendre sur une fête médiévale ou dans un musée au parc pour rencontrer des reconstituteurs. Et ce qui est essentiel à leur transmettre, à transmettre au public, c'est cette importance de la démarche historique qui soutient en fait tous nos travaux.
Alors moi, ça m'amène une question, enfin, notamment la dernière remarque de Stéphane sur les l'attitude, sur les mentalités. Je me tourne vers Isabelle, et puis je pense que d'autres pourront compléter, n'hésitez pas à intervenir. La culture matérielle, finalement, le costume, la parure, l'accessoire, l'armement, est-ce que ce n'est pas la partie la plus facile, finalement, à saisir, même si c'est déjà beaucoup de défis? Mais comment on gère quand on est en reconstitution la question justement du geste, de l'attitude, de on se tient devant des reconstituteurs, comment on essaye d'aborder, en tout cas quand on est dans des phases, je dirais un peu de démonstration, vraiment d'incarnation de l'histoire, comment on s'interroge, comment on travaille ces aspects-là qui, à mon avis, sont sans doute ceux où l'imaginaire est peut-être le plus présent, parce que on n'a pas beaucoup de textes qui nous disent comment il faut se tenir ou quelle attitude on a dans telle ou telle circonstance.
Alors moi déjà, je vais rebondir aussi sur ce que Sophie vient de dire, puisqu'il est vrai qu'en général, on s'appuie sur des textes, mais ça dépend des périodes, puisqu'on a quand même une foultitude de périodes pour lesquelles il n'y a pas de texte. Et étant issue de la préhistoire, enfin de l'étude de la préhistoire récente, moi j'ai été habituée à fonctionner seulement autour de l'objet pour ne pas être biaisée par les textes. Enfin, c'est une autre démarche. Et donc du coup, j'ai tendance à partir vraiment de l'objet. Et par exemple, pour la représentation du costume, il y a quelque chose que j'ai commencé à développer ces derniers temps. C'est donc pour une période donnée, reprendre le répertoire céramique qui existe ou les différents peignes que l'on connaît, faire un répertoire des formes, mais aussi des dessins qui sont représentés sur ces objets. Donc la plupart du temps, ce sont des dessins qui restent géométriques, mais chaque civilisation, chaque peuple a vraiment une signature bien particulière. Et donc moi, j'essaye de composer des broderies avec ce genre de motifs pour les réappliquer sur mes vêtements. Puisque, en tout cas, pour la préhistoire, il y a des choses qui ont été testées comme ça par les Allemands. Donc je parle particulièrement du Rubanais, donc qui est une culture du néolithique ancien, où les Allemands ont développé énormément de choses. Il y a déjà 10-15 ans sur tout ce costume. Et ils sont repartis des décors céramiques justement pour les réappliquer sur les vêtements. Donc j'ai trouvé que la démarche était particulièrement pertinente, puisque malheureusement, au niveau archéologique, les vêtements sont conservés seulement à des endroits qui ont été pris en contact avec du métal pour la plupart du temps, hein, puisqu'on n'est pas sur des sites qui sont en eau ou qui sont gelés, en tout cas dans la région. Donc beaucoup de choses disparaissent et le tissu va se figer sur le métal. Donc déjà, d'une part, la couleur va être perdue. D'autre part, en toute logique, la personne ne va pas forcément prendre sa broderie avec la fibule parce qu'elle ne veut pas abîmer son vêtement. Donc il y a un travail d'imaginaire et de reconstitution autour de ça. Je ne dis pas que j'ai raison, mais je pense que c'est vraisemblable. Et ensuite, dans la manière où on peut amener ça au public, moi justement, c'est imprimer éventuellement des pages de planches céramiques, expliquer au public où ces nécropoles ont été fouillées, par qui, dans quelles circonstances, bon, assez rapidement, et les faire imaginer en leur disant que ben, pourquoi pas, étant donné que les motifs se répètent sur les céramiques, sur les peignes, sur d'autres objets de la vie quotidienne, pourquoi pas sur le vêtement. Et voilà, avoir cette approche vraiment pédagogique, vraiment ouverte aussi au questionnement du public, en leur montrant le geste et en leur expliquant la démarche. Voilà, désolée d'avoir parlé si longtemps.
Non, il ne faut pas s'excuser.
Non, ben moi en fait, je vais juste rejoindre ce que disait Isabelle, notamment dans mon domaine de compétence, qui est donc la culture celtique, qui est aujourd'hui très fragmentaire, puisqu'on a effectivement quelques textes issus d'auteurs gréco-latins, mais ce n'est pas la source première qui nous permet aujourd'hui de montrer cette image des Celtes. On s'appuie d'abord sur la documentation archéologique. Et donc c'est un prérequis, absolu, pour tenter finalement, non pas de reconstituer ces personnages, mais plutôt de les évoquer. Pourquoi ? Parce que, effectivement, après 2000 ans passés sous terre, la plupart des objets ont disparu corps et bien. Je parle de tout ce qui est élément organique. Donc, effectivement, Isabelle parlait des tissus, mais il s'agit aussi des cuirs, ce genre de choses, le bois, etc. Donc, en fait, toute une documentation qui arrive jusqu'à nous, mais de façon très, très fragmentée. Et effectivement, comme le disait tout à l'heure Vianney, à propos des objets en métal notamment, ceux-là sont effectivement parvenus jusqu'à nous. Alors, en fonction de certains sols, on a malheureusement des fers parfois qui sont trop rouillés pour qu'on puisse se donner une idée de ce que ça pouvait être au départ. Mais en tout cas, effectivement, c'est beaucoup plus simple quand on peut appréhender les objets. Donc, ces sources archéologiques, ce sont les poubelles, quand même, que les archéologues fouillent, donc les fossés, les comblements de puits, ce genre de choses, et puis le milieu funéraire, donc les cimetières. Et dans ces cimetières, on ne retrouve que les éléments métalliques. Et donc, il est vrai qu'on n'a pas d'idée précise du vêtement que portait justement le défunt, alors au moment de son enterrement, mais aussi au cours de sa vie. Alors, pour pouvoir donc évoquer ces personnages, on fait appel en fait à une multitude de sources et qui parfois peuvent être relativement espacées géographiquement et chronologiquement. Et on essaie justement de pouvoir s'approcher au plus juste. Donc, de se tenir toujours aux faits des dernières découvertes. Et donc, c'est pour ça que la reconstitution historique, en tout cas pour la période celtique, et pour toutes d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose de figé. Voilà, les recherches avancent et donc les résultats complètent les anciens, valident ou invalident certaines hypothèses. Pour rentrer par exemple de façon très concrète, le costume que je porte ou que portent les guerriers qui sont debout derrière moi, dans ces sépultures, on ne retrouve que le fer de lance et éventuellement la petite fibule qui tenait le manteau. Mais les chaussures, le pantalon, la cuirasse qui est ici en matière périssable, on n'a rien. Alors en fait, si, on n'a rien, je dis qu'on n'a rien parce qu'on ne le trouve pas dans les sépultures, mais on a donc des sources indirect, donc des sculptures qui ont été faites par les artistes celtes, et aussi donc d'autres éléments comme de l'armement qui parfois montrent aussi des scènes. On a notamment un fourreau d'épée qui est bien connu, qui date de vers moins 400 avant Jésus-Christ, qui montre en fait des personnages, là cette fois-ci des guerriers, et certains d'entre eux portent des manteaux comme cette redingote que j'ai sur les épaules. On voit bien que les vêtements sont très très ajustés, que ça colle presque à la peau. On voit qu'ils ont des chaussures en pointe. Et puis, dans une nécropole tout à fait proche, on retrouve des petites fibules, donc ces broches qui permettent d'attacher les vêtements, et ces fibules de quelques centimètres de longueur qui représentent en fait ces mêmes chaussures. Et puis, on retrouve une autre fibule qui, elle, représente finalement le même personnage qu'on voit sur ce fourreau d'épée, mais cette fois-ci donc en trois dimensions avec son manteau. Donc, on arrive à voir comment ce manteau se fermait. Et puis, tout proche de là, on retrouve aussi des fragments de tissu qui sont particulièrement bien conservés, puisqu'ils permettent en fait de déterminer la trame, c'est-à-dire la façon dont les tisserands ont fabriqué ce tissu, les teintures qu'ils ont utilisées. Et à partir en fait de ces petits éléments, on essaie justement de présenter ça. Et donc c'est pour ça que je n'utilise pas le terme de reconstitution à proprement parler, parce que justement les informations sont beaucoup trop fragmentaires. Et donc si on parle de reconstitution, on dit là cette arme par exemple, cette épée, ce fourreau là, alors les fourreaux gaulois étaient principalement fabriqués en fer, le fer ça rouille, et donc il arrive que des éléments disparaissent. Et quand ces éléments ont disparu sur ces pièces-là, on se dit, bon alors quel est l'élément qui pourrait aller à cet endroit-là? Et c'est là qu'on comble l'incertitude par une vraisemblance en faisant appel aux typologies qu'ont établies les archéologues. Donc en clair, la source archéologique c'est le prérequis obligatoire pour pouvoir évoquer ces personnes-là. Alors c'est pas le cas effectivement pour toutes les périodes, puisque des périodes plus récentes sont bien sûr beaucoup mieux documentées que la période celtique.
Jean-Laurent, vous voulez réagir ?
Oui, je voudrais juste compléter rapidement par rapport à ça. Pour effectivement, je suis tout à fait d'accord par rapport à la force de l'archéologie comme source documentaire. Là, sur l'aspect de reconstitution de visuel et de technique, mais aussi sociétal. Un exemple qui est par rapport aux recherches que j'ai eu à faire. Il se trouve que dans le territoire Hyssen, donc il y avait évidemment notamment chez les rois et les reines, des objets comme portent des torques en or, et ainsi de suite. Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais effectivement, l'archéologue soulève que c'était des torques en or, non pas massives, mais plaquées, ce qui nécessitait a priori un niveau technique et d'artisanat très fort, qui a priori se fait une technique par rapport au mercure, donc ça donnait un niveau d'artisanat. Une des raisons pourquoi il y avait peut-être une richesse là, c'est la proximité de certaines mines. Et puis on tire encore un fil, ils arrivent à savoir d'où était ce mercure, ils se rendent compte qu'il était du Portugal, donc on se rend compte qu'il y avait des richesses mais qu'il y avait aussi quelque chose qui venait du Portugal. Ils essaient de le retracer, ça passe par la Gaule, elle est romanisée à ce moment-là. On sait qu'il y a des comptoirs romains qui sont en territoire Hyssen, et donc du coup on a tout d'un coup, avec un simple objet, on sait d'où ça vient, d'où ça a été extrait, par où c'est passé, dans quelles conditions en fait il y a presque eu l'acte, et on sait que voilà, ça valide l'histoire des comptoirs qui étaient implanté avant de l'entrée en guerre, qui était un comptoir romain implanté en Angleterre. Et donc il y avait déjà du commerce. Donc, c'est assez fascinant qu'avec un simple objet, on arrive à déterminer un niveau technique, mais aussi une histoire de société, de commerce, ainsi de suite. Et ça, c'est vraiment c'est ce que j'ai découvert avec Boudica.
Et aussi une chose très très importante en tant que médiateur culturel, c'est que tous les choix que l'on fait pour porter un costume doivent être justifiés. Voilà. Donc, en fait, on laisse peu de place à l'imaginaire, au final.
C'était la question que j'allais vous poser. Tous, globalement, est-ce que la reconstitution, elle vient finalement être un bon support d'imaginaire? Parce qu'elle donne à voir des choses dont on ne pouvait peut-être même pas envisager qu'elles existent. Quand on ne s'est pas questionné sur un costume du néolithique ou sur de la période celte, finalement, l'imaginaire, il est pas forcément très riche, parce qu'on ne sait tellement pas à quoi ça peut ressembler qu'on peut être sur quelque chose de très stérile, ou alors on duplique. Et en même temps, d'un autre côté, effectivement, est-ce que vous n'êtes pas là, en quelque sorte, pour venir canaliser cet imaginaire, c'est-à-dire dire, oui, ok, l'armure médiévale, elle a une fonction militaire, mais non, quand le cavalier y tombe, il n'est pas forcément comme une tortue sur sa carapace. En tout cas, ce n'est pas valable pour toutes les armures et tous les costumes. Donc, la relation à l'imaginaire, vous estimez que vous êtes plus dans quelque chose qui permet de venir l'abonder, ou au contraire, qui a vocation à la canaliser, voire à voire à combattre en partie l'imaginaire
Il y a casser les stéréotypes, c'est notre travail, mais en fait, on se rend compte que déjà rien qu'entre spécialistes, on est complètement complémentaires. C'est-à-dire que nos démarches, la démarche historique, j'avais dit tout à l'heure que c'était les textes, effectivement, l'histoire, c'est les textes, mais on a besoin de l'archéologie pour combler les lacunes. L'archéologie peut parfois avoir besoin des textes, puisqu'on est parfois là pour leur dire « Eh oh oh !» calmez-vous, voilà, regardez chez Aristophane, regardez, voilà, on est tous un petit peu là pour se canaliser déjà entre spécialistes. Et évidemment, quand on arrive sur la reconstitution historique qui se veut plus grand public, le spécialiste est là tout en restant humble pour dire l'état de la recherche qui bouge d'année en année, voire de mois en mois, en est là. Ce que tu faisais jusque-là, c'était acceptable. Maintenant, avec l'avancée, il faut faire autrement. C'est puisto. Voilà, on a vraiment ce travail de mais ça fait partie de ce que je pointais déjà depuis le départ sur la démarche et cette capacité à se remettre en question et à remettre ses propres recherches en question. Et pour la reconstitution, ou même pour le roman, à remettre le résultat de ses recherches aussi en question.
Alors, je pense qu'on peut même aller plus loin que montrer le matériel, en fait. Dans cette médiation de l'histoire que permettent les troupes de reconstitution, j'ai pendant des années, avant de produire des romans, j'ai produit des spectacles historiques pour différentes fêtes médiévales. Et au début, les compagnies belges étaient très, très fédérées autour de celles dont je faisais partie. Donc, on pouvait arriver avec 200 combattants, 60 archers, 30 canons. Et c'était quand même, on pouvait vraiment faire des choses en grand. Et donc, pour moi, c'était un très, très beau jouet. Je pouvais vraiment jouer à Cécile B2000 version médiévale. Mais à un moment, donc on a commencé par faire des spectacles assez basiques, deux armées, deux héros qui s'invectivent au début et puis on se tape dessus. Et puis, j'ai eu envie de montrer, comme historien, d'autres aspects du Moyen-Âge qui étaient méconnus, avec des spectacles scénarisés, avec bande-son, en intégrant des acteurs professionnels, ce qui était difficile dans le milieu de la reconstitution, où les gens disaient non, pourquoi c'est eux qui ne font pas de travail, qui doivent prendre les premiers rôles, etc. Parce qu'ils savent jouer. Et donc c'était un travail difficile à faire passer. Et puis on y est arrivé, et notamment les médiévales de Namur, qui est ma cité. Ça s'entend d'ailleurs Namur, j'ai dit. c'était vraiment devenu une marque de fabrique dans les années 2000. On a fait des spectacles sur le grand schisme d'Occident, qui est un épisode qui est finalement très peu connu du grand public, quand il y avait deux papes qui se tapaient dessus et que ça produisait des différents conflits, en mettant en scène une abbesse comme une personne puissante, quelque chose qui n'est pas toujours bien perçu, la puissance des abbesses comme seigneur terrienne et donc finalement éventuellement comme seigneur de guerre, en s'opposant à des princes évêques en armes, qui est aussi une figure que les gens ne connaissent pas, mais tu la visualises, tu montres un gars en armure avec la mitre dessus. C'est une image forte que tu donnes au public, qui leur apprenne quelque chose sur le Moyen-Âge qu'ils ne connaissent pas et qui est pourtant très important. Alors après, on a continué à aller plus loin dans les forces et on a notamment fait un spectacle sur l'Orient, mais l'Orient fabuleux. C'est-à-dire qu'on avait un chevalier qui, au plein milieu d'une bataille, jouait au super-héros, mais c'était un vieux, et à un moment, il se coinçait le dos en pleine bataille et il décidait qu'il fallait absolument qu'il trouve la source de jouvence qui se trouve, comme chacun sait, à l'est, loin à l'est. On partait sur la carte médiévale qui était représentée en grand. On montrait Jérusalem au centre du monde, le paradis terrestre qui est à l'est. Vraiment une vision biblique de la géographie. On avait matérialisé ça sur d'énormes panneaux, sur des cartes qu'on déplaçait sur le terrain. Donc on montrait des choses sur l'histoire qui sont peu connues du grand public. Et alors là où j'ai eu difficile avec les troupes elles-mêmes qui ont failli me lyncher, c'est que on a commencé à montrer l'imaginaire médiéval avec notamment les créatures fabuleuses qu'on trouve dans l'Orient, d'après les sources antiques d'ailleurs et médiévales, d'après le roman d'Alexandre et puis d'après les voyages fabuleux de différents personnages au Moyen-Âge. Et donc on se retrouvait par exemple avec des cynocéphales, donc des êtres à tête de chien. Hein, d'ailleurs, il y a d'ailleurs un saint Christophe qui est un cynocéphale dans une des versions du saint. C'est assez intéressant, c'est un saint à tête de chien. Moi, je l'adore. Il fait craquer. Des panothéens avec des longues oreilles dans lesquelles ils peuvent s'enrouler pour dormir. Et là, des troupes ont eu vraiment beaucoup de mal en disant « Mais c'est pas histo ton truc !» Je dis « Mais si, c'est histo, on est en train de montrer leur imaginaire et de le matérialiser. » Et donc, les compagnies de reconstitution historique peuvent montrer aussi ce qu'il y a dans la tête des gens de l'époque. Et là, on va plus loin.
Enfin, c'est quand même, ça dépend, je pense, effectivement, de l'époque qu'on veut montrer au public. Parce que pour la période celtique, en tout cas, l'exercice est beaucoup plus difficile. Parce que les Celtes n'ayant pas écrit leur histoire, les textes, en fait, sont issus de ce qu'ont écrit les gréco-latins. Et bien sûr, même s'ils faisaient du commerce, se sont beaucoup combattus. Les Celtes, quand même, étaient réputés pour foutre le bordel, s'il n'y a pas d'autre mot, partout où ils allaient. Et on se dit, bon, y a effectivement des stéréotypes aussi qui sont véhiculés par cette image antique et qu'on a continué à véhiculer au 19e siècle notamment. Et c'est aussi notre travail de reconstituteur aussi de briser justement ces stéréotypes, mais ces stéréotypes qui sont quand même, c'est explicite, je veux dire, les textes antiques sont quand même assez clairs sur un certain nombre de comportements qui nous est difficile d'imaginer d'ailleurs aujourd'hui et encore plus difficile de reproduire. Mais quand on dit que les Celtes étaient très intéressés par l'or, mais c'est vrai, puisque justement ils sont descendus jusqu'à Rome, c'est pas pour rien, et ils sont repartis les poches pleines. Quand ils ont décidé d'aller en Grèce, c'était la même chose, ils visaient quand même le sanctuaire panhellénique de Delphes. Alors évidemment, donc ces armées qui étaient quand même immenses, puisque plusieurs milliers de personnes qui décident de prendre part à ce raid, puisque c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'action, donc un raid, mais finalement qui n'a pas abouti parce que plusieurs milliers de personnes en déplacement, les conditions d'hygiène déplorables, les maladies, la faim, puisque on peut imaginer en fait une invasion de sauterelles, quoi. Ces gens-là arrivent quelque part, pillent les ressources vivrières locales et ensuite sont bien obligés d'avancer. Et donc en général ça ne va pas bien loin. Mais ces comportements-là, on ne peut pas les reproduire. Donc en fait, on ne montre, nous, qu'une image, finalement, qu'une partie seulement de ce monde-là. Et d'autre part, l'archéologie ne nous livre aussi qu'une petite catégorie de la population chez les Celtes. Il n'y a que deux cimetières, je crois, en Europe qui présentent à peu près, je crois, toutes les couches de la société. Mais la plupart du temps, dans la très grande majorité des cas, nous n'avons que les riches. Et les pauvres, on ne sait pas ce qu'ils en faisaient. Alors, on pourrait aussi dire autre chose par rapport à la reconstitution, c'est que même si on a donc cette volonté de faire de la médiation culturelle pour expliquer au public néophyte des choses qu'ils connaissent peu ou voire pas du tout, eh bien, il arrive aussi parfois que le reconstituteur donne des éléments de réponse à des questionnements des archéologues ou des historiens. Et de façon très concrète, là pour le fait militaire, il se trouve qu'apparemment, les Celtes, déposaient de l'armement dans des sanctuaires. Alors évidemment, cet armement est arrivé jusqu'à nous dans un état quand même assez fragmenté, puisque l'armement celtique est entièrement constitué de fer, donc le fer, ça rouille. Mais pas que. Il se trouve aussi que cet armement-là a subi des dégradations volontaires à cette époque-là. C'est-à-dire qu'en gros, on a des gens, alors probablement des religieux, la question reste posée, ont donc pris cet armement et l'ont mis en petits morceaux. Sauf que dans certains endroits, on a quand même des pièces d'armement qui sont relativement bien conservées, bien qu'elles soient pliées. On a notamment des épées, des fourreaux qui sont pliées en trois parties, mais on en a d'autres qui sont simplement cintrées, voire même qui sont simplement, qui ont juste une pliure à l'angle droit. Alors la question qui se posait, est-ce que ce genre de dégradation, est-ce que c'est dû au champ de bataille ou au combat, ou est-ce que c'est dû à une dégradation volontaire qui s'est donc produite après, plusieurs années après, plusieurs siècles après, ça on ne sait pas. Et il s'avère que tout à fait par hasard, on est tout simplement, nous, tombés avec ces épées, ces fourreaux que l'on porte à la taille et du côté droit, et on a eu les mêmes pliures, les mêmes cassures. Et donc ça nous a permis de dire, par le plus grand des hasards, justement aux archéologues qui se posaient la question de savoir si c'était volontaire ou pas, que une certaine catégorie du matériel qui arrive dans ces sanctuaires, il est déjà dégradé par le combat. Voilà. Mais évidemment, ces questions que se pose l'archéologue, le reconstituteur ne peut y répondre que de façon très, 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 très confidentielle au final, puisque de toute façon, le reconstituteur dépend d'abord de l'archéologue. Et c'est non pas l'inverse. Mais on arrive quand même à apporter quelques petits éléments de réponse qui font avancer la recherche.
Il en dépend, mais je retourne la question à l'archéologue. Est-ce que on le voit pour la reconstitution aussi, je dirais bêtement, visuelle, graphique. La reconstitution a cette vertu, je crois, de forcer à se poser des questions. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut concrétiser. On ne peut plus rester dans un imaginaire vague. La maison, elle doit ressembler. Non, il y a un moment, il faut se poser la question. Comment est la toiture? Comment on entre? Comment on circule? Comment on fonctionne? Et est-ce que là, il n'y a pas, je dirais, du coup, quelque chose, vraiment un trésor qui est la base de l'histoire, c'est-à-dire qui permet d'avancer dans l'enquête, de se poser les bonnes questions pour faire l'enquête qui est finalement le cœur de l'histoire?
Oui, alors effectivement, le mot enquête est le bon, puisque le travail de l'archéologue, c'est de l'investigation en permanence. Le travail du reconstituteur aussi, c'est de l'évocation historique, c'est de l'enquête, c'est de la recherche. Et finalement, moi, je voulais de toute façon rebondir sur ce qui vient d'être dit. Il faut aussi avoir bien en tête qu'il y a plusieurs formes d'archéologie. Voilà, il n'y a pas un seul archéologue qui est capable de tout faire. Il y a des spécialistes pour chaque chose. Donc, on peut se tourner aussi vers des personnes particulièrement reconnues sur différents, différents secteurs. Donc, je pense, moi, par exemple, à tout ce qui est culinaire, puisque j'ai essayé de me frotter aussi à l'archéologie expérimentale au niveau culinaire, puisque finalement, c'est le nerf de la guerre. On se demande tous ce que mangeaient les gens à l'époque, comment ils le cuisinaient, surtout si c'est, donc aussi bien une troupe celtique qui vit au même endroit dans des maisons, déjà une architecture fixe, ou alors si c'est plutôt une armée, une petite armée de tribus barbares en campagne qui fait un tour et qui avance un petit peu tous les jours. Donc comment on cuisine dans ces conditions-là? Et donc en tant qu'archéologue, moi je me suis tournée vers d'autres spécialistes issus de l'archéologie, entre autres donc les carpologues, ceux qui étudient les restes de les restes végétaux, les restes de graines, donc choses qui sont très rares, hein, mais qu'on apprend à reconnaître avec le temps, que les archéologues aussi essayent de reconnaître de plus en plus, puisqu'il faut bien dire qu'au départ, l'archéologie, c'était surtout les poubelles et les nécropoles, et à part les objets métalliques et certains objets bien reconnaissables comme l'os ou les céramiques, le reste était un petit peu passé à l'as. On ne voyait pas forcément des choses qui étaient pourtant présentes dans les sépultures. Il y a une étude assez récente qui montre que pour la période barbare tardive, on peut retrouver des individus qui sont couchés sur des lits faits de plumes d'animaux. Et ça, pour l'instant, on ne le savait pas. Ou alors des dépôts, donc justement de récipients qui contiennent encore des graines. Quelles sont ces graines ? Dans quel contexte elles sont retrouvées ? Si on a des graines très différentes dans les poubelles, on peut imaginer que c'est des choses qui sont liées à l'alimentation. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser actuellement dans ce qu'on a encore sur nos étals ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas utiliser ? Les graines qui sont dans la sépulture, est-ce qu'elles sont présentes seulement dans les sépultures ? Est-ce qu'on les retrouve dans l'alimentation ? Donc là, la question du geste revient. Est-ce qu'on sélectionne certaines choses plutôt que d'autres pour différents usages ? C'est une question qui est très très vaste. Sur le métal, on a aussi des spécialistes, parfois vraiment à la, comment dire, à la région près du petit mobilier, l'instrumentum. Il y a des choses extrêmement développées et très très ouvertes. Donc si quelqu'un veut rebondir...
Alors, moi, je vois le temps qui passe et je crois qu'il va falloir qu'on le temps va manquer. Je crois que ce qui ressort, c'est que vous êtes tous, en tout cas, en pleine interrogation face à la reconstitution historique par rapport à vos imaginaires. Et il y a une grande humilité qui ressort de tout le monde, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en cause assez permanentes. Et j'ai juste envie de finir sous forme d'une question à Jean-Laurent Del Socorro. L'expérience de la reconstitution historique pour le prochain ouvrage, pour mieux comprendre ce que vivent les personnages, allez-vous franchir le pas ?
Eh bien, curieusement, là, à cette table ronde, j'ai plutôt envie de franchir le pas du côté des Celtes, mais voilà, pourquoi pas ?
Merci. Voilà, on va libérer la salle pour les suivants, et je vous remercie à tous.